S'autodéterminer, c'est être l'auteur de sa vie. Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS et de l'organisme de formation Campus. Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que.
Je suis Christophe de l'Église, moniteur éducateur à l'IUM Le Passage pour le GAPAS.
Je suis Hélène Ricambuche, psychomotricienne à l'IUM Le Passage pour le GAPAS.
Alors pour cet épisode, on va discuter avec Hélène et Christophe de savoir finalement comment vous avez commencé à travailler la question de l'autodétermination ici à l'IEM et en lien avec la communication. Qui de vous deux pourrait m'expliquer comment tout ça a démarré ?
Je vais prendre la parole si Hélène me permet. Je suis arrivé donc récemment au GAPAS et dans le monde du polyhandicap. Donc j'ai découvert justement cette notion d'autodétermination, de pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir faire leur propre choix et de pouvoir être maître de leurs décisions. Et tout naturellement, je pense qu'en fait, en arrivant, en disant il faut pouvoir que les jeunes s'autodéterminent, mais pour pouvoir s'autodéterminer, il faut savoir communiquer. Et je me posais des questions justement sur comment améliorer ce lien de communication avec les jeunes. Et à un moment donné, le travail sur les ambassadeurs communication est arrivé et naturellement je me suis proposé parce que ça me paraissait logique de pouvoir travailler là-dessus, de trouver des moyens de communication alternatifs pour chaque jeune.
Alors tu disais, c'était des notions que tu connaissais peut-être pas forcément avant, du coup ça veut dire quoi ? Tu as été formé à l'autodétermination ?
Oui, en arrivant au passage, on a suivi une formation sur l'autodétermination avec Vanessa Tricois et Martin Cahouette. Et du coup, ça nous a permis de mieux comprendre ces aspects sur l'autodétermination.
Et en quoi, toi, ça a demandé à ce que tu changes ta pratique professionnelle ? Qu'est-ce que tu as compris, toi, de cette formation-là, alors ?
Que justement, ce n'est pas parce que les jeunes sont en situation de polyhandicap ou qui sont non-verbaux qu'ils ne peuvent pas faire des choix. Et justement, ça, c'est une mécanique à avoir pour d'avoir toujours cette possibilité en tête de se dire, de laisser faire les choix et de ne pas faire les choses à la place des jeunes.
Toi, Hélène, tu as suivi aussi cette formation-là ?
D'autodétermination ?
Oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu en as retenu aussi dans peut-être ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant différemment ?
J'ai vraiment appris à mieux observer les jeunes que j'accompagne pour leur proposer vraiment des choses adaptées, des situations dans lesquelles ils vont pouvoir faire des choix ou faire une résolution de problème ou s'autodéterminer. Et tout ça au niveau de chacun, peu importe l'importance du défi à relever. Et du coup, ça m'a permis d'adapter vraiment à chacun, de mettre le focus sur quels sont ses besoins, comment je peux lui proposer des situations où il va pouvoir faire des choix, s'autodéterminer, s'autoréguler.
Alors, notamment dans cette fonction-là que tu occupes de psychomotricienne, est-ce que ça a aussi changé ta pratique ?
Oui, alors ça m'a permis notamment de proposer par exemple des activités qui sont plus sensorielles à des personnes qui présentent de plus gros défis au niveau à la fois moteur et au niveau de la communication, parce que ça a remis en lumière l'importance d'expérimenter et d'explorer l'environnement, de vivre des expériences pour pouvoir ensuite manifester des préférences et faire des choix et s'exprimer.
Est-ce que tu aurais un exemple de ce que tu as vécu avec un jeune par rapport à ça ?
Oui, je peux parler de l'atelier Patouille qu'on mène en lien aussi avec des éducateurs. Et dans l'atelier Patouille, on propose vraiment des choses à toucher, que ce soit c'est beaucoup des choses alimentaires. Et on voit vraiment que selon les textures, on a vraiment des choses différentes, des choses nouvelles sûrement pour les jeunes. Et selon les textures, ce soit quelque chose qui soit dur comme une noix, qui soit doux comme de la purée, l'enfant, il va pas avoir la même réaction. Il va des fois mettre les mains, des fois pas mettre les mains, et des fois porter à la bouche, pas porter à la bouche. Et tout ça, c'est plein d'informations sur ses préférences, sur ses goûts et sur sa manière d'explorer le monde.
Alors Christophe, tu disais ce qui a été important aussi pour vous, c'était de faire le lien avec tout ce qui est communication, puisque on sait que avant de pouvoir s'autodéterminer, il faut aussi avoir cette possibilité-là de communiquer. Comment vous en êtes venu là à travailler sur ces questions-là de la communication ?
On y a eu un axe de travail qui a été défini par la direction, que ce soit accentué sur la communication. On nous a demandé qui serait volontaire pour devenir ambassadeur communication et être sur ce groupe de travail. Et donc on a postulé. Naturellement, ça m'est venu parce que ça me paraissait important de pouvoir travailler sur la communication et trouver des moyens de communication pour les jeunes.
Alors tu as dit ambassadeur de la communication, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire qu'on nous sommes référents sur les moyens de communication des jeunes. Et donc, on se réunit en groupe de travail pour définir les projets individuels de communication de chaque jeune. Et à terme, c'est de pouvoir trouver un moyen de communication alternatif pour tous les jeunes des IUM, que ce soit le passage ou la source.
Et alors, concrètement, comment vous faites ? Est-ce que vous utilisez un outil de communication qui soit vraiment en fonction du besoin du jeune, ou est-ce que c'est le même outil pour tout le monde ? Comment ça fonctionne ?
L'objectif, c'est de trouver justement un moyen adapté à chaque jeune. Donc, au préalable, nous avons fait des bilans de communication pour tous les jeunes du passage et de la source.
Oui.
Donc, en faisant remplir des questionnaires que nous avons élaborés à l'aide d'orthophonistes.
D'accord.
Donc, les questionnaires étaient remplis par les professionnels, mais aussi on y a associé les familles. Parce que voilà, c'est très important pour nous. Et donc, suite à ça, nous avons fusionné les questionnaires pour pouvoir les analyser et essayer d'élaborer une ébauche de projets de communication et de pouvoir tester des choses sur des moyens de communication qui seraient plus adaptés à chaque jeune en fonction de leur profil, de leur capacité et de leur potentialité.
Ok, alors si on prend un exemple d'un jeune, est-ce que vous pourriez me dire finalement où est-ce que vous en êtes arrivé par rapport à une évaluation qui a pu être faite sur un jeune ? Hélène, là c'est toi qui nous raconte cela ?
Alors, en fait, déjà, c'est observer à quoi le jeune, il est réceptif, que ce soit... en fait, on a plusieurs possibilités au niveau de la communication. Ça peut être des signes, ça peut être montré sur une photo ou montré sur un pictogramme. Et tout le monde n'a pas accès à tout. Donc, on a déjà observé ça. Et on a mis en place, sur le temps des repas, pour tout le monde, une boîte avec à la fois la photo et le pictogramme de l'objet ou de l'aliment. Et là, par exemple, je pense à certains jeunes qu'on accompagne ici, et ils ont vraiment bien investi cette boîte, et au repas, que ce soit la photo qui leur parle ou alors le pictogramme, ils peuvent vraiment pointer ou montrer la carte qu'ils veulent pour faire des demandes, pour demander du pain, de l'eau, la serviette, le couvert, et ça les rend vraiment acteurs de leur repas, ça leur permet de faire plus de choix, et on s'est rendu compte que, en fait, des fois, ils voulaient se resservir, et avant, ils n'avaient pas l'occasion de le demander, donc maintenant, ils peuvent se resservir. Ils peuvent demander, une deuxième tartine ou du fromage sur leur pain au lieu du beurre. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour nous parce que là, la personne est vraiment actrice de son repas et nous exprime ses besoins.
C'est quoi la suite de ce projet alors ?
C'est d'établir un projet individuel de communication pour chaque jeune et de trouver justement le moyen de communication alternatif pour chaque jeune adéquat qui puisse s'exprimer et justement faire ses choix et s'autodéterminer dans sa vie future, actuelle, au passage et en dehors.
Et vous avez parlé du lien avec la famille, ça veut dire qu'à quel moment les familles sont aussi investies ou en tout cas sensibilisées, intégrées dans le projet, puisque il faut que l'outil puisse aussi être utilisé à la maison quand les jeunes sont avec leurs parents.
Alors l'objectif justement c'est toujours de travailler en lien avec les familles. À ce sujet, on a fait une sensibilisation au Macathon pour les familles. Donc il y a eu quelques familles qui sont venues au passage. Il y avait une intervenante Macathon, donc c'est Marie-Pierre, j'ai pas son nom de famille, qui est venue pour faire une sensibilisation et pouvoir montrer aux parents ce qui était possible de faire, en tout cas en Macathon, et de montrer aussi ce que leur enfant travaille ici à l'IUM.
Okay.
Mais ce n'est qu'un des moyens de communication alternative parmi tant d'autres.
Merci Hélène, merci Christophe. Si vous voulez en savoir plus sur les programmes de formation Agir pour l'autodétermination, vous pouvez contacter l'organisme de formation Campus à l'adresse mail contact@agir.fr. contact@campusformation.org. Toute l'équipe se fera un plaisir de vous proposer un programme, un conseil, un accompagnement ou une formation adaptée à votre besoin.